Bonjour à toutes et à tous, chers amis auditrices et auditeurs, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel et deuxième épisode de Bande à part. Vous êtes en compagnie d'Audrey Beldine, nous sommes sur les ondes de Radio Alliance Plus pour Bande à part, émission d'histoire de l'art ouverte à tous et qui vous donne à entendre ce que vous pourriez voir. La fois précédente, nous nous sommes penchés ensemble sur une œuvre monumentale et bavarde. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une œuvre, elle aussi de la Renaissance, mais bien plus sobre, quoique pleine de symbolisme chrétien. Cette œuvre est une adoration de l'enfant Jésus par saint Jean-Baptiste. Remarquons déjà qu'il s'agit d'un tout petit tableau. Précisément, une huile peinte sur bois de 56 cm de haut par 36 cm de large. Mais elle n'en reste pas moins une grande œuvre. Par sa charge symbolique, nous allons y revenir. Le maître qui a peint cette œuvre est Lucas Cranach l'Ancien, peintre de la Renaissance, dont l'œuvre a été largement diffusée en Europe de son vivant grâce aux techniques d'impression et de gravure sur bois. Proche des milieux protestants, et notamment de Luther, dont pour l'anecdote il fut le portraitiste, Lucas Cranach est né en 1472 à Cronach, d'où son patronyme d'emprunt. Formé à Vienne, c'est ensuite à Wittenberg qu'il déroula l'essentiel de sa carrière en tant que peintre de cour au service des électeurs de Saxe. Ses gravures sur bois, pour vous donner une idée de sa renommée, illustrèrent la première édition allemande du Nouveau Testament. Il mourut à la tête d'un grand et prestigieux atelier en 1553, lequel passa alors sous la direction de son fils, Lucas Cranach, dit le Jeune. Loin de la grandiloquence du Jardin des Délices d'un Jérôme Bosch, l'adoration de l'enfant Jésus par saint Jean-Baptiste est une œuvre intimiste et sobre. C'est aussi une œuvre de maturité, car les spécialistes s'accordent pour dater sa réalisation autour des années 1530-1540. À vrai dire, nous avons peu d'informations sur le contexte de création de cette œuvre mystique, mis à part que nous sommes en pleine réforme. Aussi, nous pouvons déjà dire que les essentiels du christianisme, à savoir la victoire de Jésus sur la mort et le péché, sont contenus dans cette œuvre toute singulière. Si vous souhaitez la voir, il vous faudra profiter d'un séjour à Madrid et vous rendre au musée Lázaro Galdiano, où elle est actuellement conservée. Des volutes d'encens s'élèvent. Un voile de myrrhe pourrait les envelopper. Temps suspendu, moment mystique. Ô Dieu, ô Dieu, ô Dieu. Le Christ, Maître suprême, se tient debout dans sa nudité d'enfant. Brandir la croix, écraser le serpent, voilà l'éclatant témoignage du Fils de l'homme que saint Jean le Baptiste contemple et prie dans un regard d'amour qui étreint. Le sol est aride et caillouteux. Toute route qui mène à Dieu n'est-elle pas un désert pour chacun ? Désert où l'on trébuche, certes, mais désert d'où l'on se relève pour continuer le pèlerinage tant il est plein de promesses. S'unir à Dieu, voilà toute l'œuvre du saint. Au prix de grands efforts, c'est certain, mais par la grâce donnée surtout. Dans une déférence toute juvénile, saint Jean le Baptiste vénère à genoux le maître. Un doux agneau collé à son flanc gauche laisse deviner en lui l'âme de pasteur. Jean n'a-t-il pas conduit de nombreux disciples à Jésus, lui qui annonça en précurseur la venue de l'agneau divin? La peau de bête de l'ermite retirée le couvre. Sauvage et sage à la fois, le Baptiste enfant s'extasie, s'en remet à Dieu et nous recommande à lui dans un regard qui nous est destiné. Ainsi, tout est oublié. À commencer par la mort, déjà vaincue, par nos péchés, déjà remis, seule la bénédiction du Seigneur compte, et d'un élan enfantin, il nous faudrait savoir l'accueillir. Il est clair que c'est une petite scène bien intimiste à laquelle nous accédons ici. Il y fait sombre, mais elle est éclatante de sens, car plus on s'élève dans le tableau, et plus on est amené à contempler la douceur irradiante du Christ. En effet, au premier plan, des éléments troublants sont disposés. D'abord, une sorte de tête animalière qui figure sans doute un démon. Cette créature est noire, noire comme l'ébène, et présente un regard fou. On sent d'ailleurs toute la puissance maléfique et débridée en elle. Plus à droite, un squelette, aux attaches et jointures encore parfaites. Ces deux éléments semblent émerger d'un abîme que domine une roche, laquelle accueille le pas de Jésus enfant et du Baptiste. Sur le crâne du squelette, un pied domine, celui du Christ. Cet élément vient faire le lien avec la partie médiane du tableau. En même temps qu'il écrase le crâne, le pied divin est l'objet de l'attaque d'un serpent. Serpent qui enserre le pied de la croix que tient Jésus. Or ici, cette croix sur laquelle sera élevé le Christ, guide le regard du spectateur vers le visage du jeune Seigneur. Celui-ci se tient dans une posture de léger contrapposto et embrasse la croix de son bras gauche. De la main droite, il donne bénédiction au Saint-Baptiste. Le corps de ce dernier est contenu dans toute la partie médiane à gauche du tableau. Agenouillé au bord de l'abîme précédemment évoqué, le jeune Jean le Baptiste a les traits d'un garçonnet d'environ 7 ans, joufflu, le regard clair. Vêtu de l'emblématique peau de bête, attribut bien connu du saint, il pose une main sur la tête d'un agneau. De l'autre, il désigne Jésus, tout en adressant un regard complice au spectateur, et par là nous désigne intentionnellement le Sauveur. Mais revenons à cet agneau. Lui, qui est aussi agenouillé, mais dont le regard n'embrasse pas le Christ. On dirait même qu'il y renonce volontairement par déférence. À notre attention, il faut souligner une singularité frappante dans son tableau, le fond de l'œuvre. Il est en effet entièrement noir, ce qui laisse à penser que pour le coup, l'arrière-plan, on s'en moque. Et c'est ce qui a pour effet que les figures du saint et du sauveur-enfant se détachent par leur peau laiteuse et n'en apparaissent qu'avec plus de relief. Magistral et sobre à la fois, la leçon de catéchisme est là, tout en contraste. Littéralement, on peut dire que cette œuvre à fond noir avec deux personnages et quelques points de détail est une œuvre de la Réforme. Elle va en effet à l'essentiel, et ce, pour nous enseigner sur le mystère de l'incarnation et de la résurrection. Il n'y a pas de grandes ambiguïtés à interpréter cette œuvre. Et si l'on s'y autorise, on peut même oser dire que c'est une vignette de catéchisme que nous avons sous les yeux. Comme je le disais, on y voit Saint Jean-Baptiste enfant, montrant du doigt Jésus, tandis qu'il nous adresse un regard d'invitation à suivre le Maître. Remarquons que Jésus, qui a les traits ici d'un enfant de 7 ans, ce qui à la Renaissance est déjà l'âge de raison, est en fait peint en victoire. Victoire sur la mort, avec le pied posé sur le crâne du squelette. Victoire sur le serpent et le péché, puisque, notons-le, le serpent est figuré en position de repli, car en position enroulée. Victoire sur le temps aussi, car le crâne, c'est également une vanité. Victoire enfin sur toute la création, puisque la composition du tableau laisse le Christ dominer à la fois l'abîme infernal et ses noirceurs, le monde des humains représenté par le Baptiste enfant, et le règne animal et toute la création au travers de l'agneau. Thank you. Il est temps d'aborder les singularités de l'œuvre. Nous en aborderons deux principalement. Dans un premier temps, nous pouvons noter que, quoique relevant d'art sacré, cette œuvre contient en elle un détail d'art profane. Ce qui me fait dire ça, c'est la morsure du talon de Jésus par le serpent. Certes, en toute logique, le peintre ne pouvait se permettre de faire dominer Jésus par le serpent. Il l'a donc peint à ses pieds. Mais ce détail du serpent qui s'attaque au talon de Jésus n'est pas sans faire penser à un détail issu de la mythologie grecque, et notamment au mythe d'Achille. Rappelons l'histoire d'Achille. La mythologie nous apprend qu'il est le fils d'un roi, le roi Pelé, et de Thétis, une Néréide, ou nymphe marine. Afin de le protéger et de le rendre invulnérable, la nymphe plonge l'enfant dans l'eau du Styx en le tenant par le talon, lequel sera la zone de faiblesse qu'on lui connaît. Rappelons-le, à la Renaissance, on est friand de mythologie. On peut donc légitimement se demander si le peintre, Lucas Cranach l'Ancien, n'a pas peint ce détail du talon pour mieux souligner la nature du Christ Dieu fait homme. Je laisse ce point à votre appréciation. Autre point sur lequel je souhaite attirer votre attention, c'est la double temporalité de l'œuvre. En effet, nous voyons deux garçonnets qui se font face, mais tous deux portent les attributs de l'accomplissement de leur vie d'adulte. Ainsi, Jean le Baptiste est vêtu de la peau de bête dans laquelle il est représenté dans la tradition picturale, conformément à sa description dans l'Évangile. Ce Jean avait son vêtement fait de poils de chameau et un pagne de peau autour de ses reins. Sa nourriture était de sauterelles et de miel sauvage, nous dit Matthieu, au chapitre 3, verset 4 de son Évangile. Ainsi donc, c'est Jean-Baptiste enfant qui nous est montré ici, mais qui préfigure le grand prêcheur du désert, le grand saint précurseur du Christ, dont il est d'ailleurs le cousin issu de Germain, puisque, rappelons-le, lorsque Marie va aider sa cousine Élisabeth enceinte, c'est bien Jean le Baptiste qui tressaille en son sein à l'arrivée de Marie, elle-même enceinte du Sauveur. Pour ce qui est de l'enfant Jésus, quoique garçonnet, il porte déjà la croix sur laquelle il sera élevé et crucifié. La croix par laquelle il rachètera nos péchés et marquera la victoire de la lumière divine sur la mort. Ainsi, par un astucieux jeu de symboles, Cranach nous dévoile un présent d'adoration, mais aussi un accomplissement à venir. Il nous invite à adorer pas seulement l'enfant Jésus, mais toute son œuvre future. Pour continuer notre commentaire, nous pouvons nous émerveiller de l'audace du traitement de cette adoration. En général, les peintres choisissent de faire adorer l'enfant Jésus par les mages, ou par les bergers, ou par les deux. De même, il privilégie la représentation de Saint Jean le Baptiste décapité à la demande de Salomé, ou carrément la représentation de la crucifixion. Notre cher Lucas Cranach, lui, casse les codes de la tradition picturale avec ce panneau inédit qui nous livre en force tout le message de la chrétienté. Victoire du Christ sur la mort, victoire du Christ sur le péché, je l'ai déjà dit, mais tout ceci au travers d'une scène qui confronte deux enfants seulement. Par ailleurs, cette adoration est particulière. On peut même dire qu'il triche un peu. Car on connaît des tableaux d'adoration de saints où on les voit en extase mystique, le regard absorbé par le mystère de Dieu. Ici, le saint, Jean-Baptiste enfant, nous regarde. Il n'est pas captivé par Jésus, mais il montre Jésus. Il le désigne tout en nous regardant. Ainsi, pour parler plus justement, on pourrait dire qu'il s'agit non plus d'une adoration, mais d'une exhortation à adorer le Saint-Sauveur, exhortation destinée aux spectateurs, bien sûr, à commencer par le premier propriétaire de cette œuvre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mes chers amis. J'en ai fini avec ce panneau de Lucas Cranach l'Ancien. Je tenais à vous le présenter, car il est d'une grande beauté, mais aussi d'un mysticisme et d'un symbolisme puissant. Je vous invite donc à faire une petite recherche Google Images pour l'admirer. Lors de cette émission, nous avons écouté « Expérience » de Ludovico Einaudi et « La Nocturne 5 » de John Field. Je vous souhaite une agréable fin de journée, à très bientôt et portez-vous bien.
Retrouvez toutes nos émissions en podcast sur radioalliance+.fr.